Soin de votre corps, c'est le seul endroit
où vous êtes forcé de vivre.
Quelle est l'identité de genre d'une personne? Exactement. Comment se siente? ¿Y qué? ¿Por quién sentís atracción sexual afectiva? ¿O por otras mujeres? ¿Ella deja de ser mujer? ¿Por eso?
No sé qué.
Es imposible disociar nuestra identidad y nuestro cuerpo. El cuerpo para nosotras es una herramienta de lucha.
Dans un corps sain.
Au bord des corps.
Bonjour chers auditeurs. Voici un nouvel épisode sur la justice intracommunautaire et la justice transformatrice. Comment fait-on communauté? Comment reconstruit-on nos communautés, ou plutôt comment les transformons-nous pour amener nos objectifs de justice sociale et d'égalité dans le giron de nos modes d'organisation? Comment fait-on face aux conflits et les gérons-nous? Je m'appuierai ici sur mes notes du livre « Faire justice » d'Elsa Deck-Marceau. On peut définir la communauté ou la collectivité selon ces termes, comme un groupe de personnes partageant un savoir et un certain pouvoir sur une situation commune. Cette notion de pouvoir, elle est importante. La justice intracommunautaire, selon Elsa Deck-Marceau, c'est l'ensemble des réponses collectives et individuelles concrètes qui désignent un agissement comme non acceptable. C'est une notion descriptive, c'est-à-dire une justice de terrain. Or, on va le voir, cette justice a de plus en plus tendance à reproduire les dispositifs de justice punitive. Foucault en parlait déjà en 1976. Bon, je précise que je ne suis pas un grand adepte de Foucault, étant donné la pédocriminalité de cette personne. Mais il avait déjà formulé le fait que nous avions, dans notre société, intégré et reproduit les systèmes de justice punitive inspirés de la justice pénale qui est maître dans nos pays, et qui est un système donc judiciaire particulièrement prescriptif, c'est-à-dire qu'il dit quoi penser de nos propres histoires, selon Elsa Deck-Marceau, c'est-à-dire vouloir la sanction pour les personnes victimes et attendre des accusés qui, elles, prouvent leur innocence ou leur remords. Dans cette justice punitive, les faits priment sur les répercussions psychologiques et les ressentis des protagonistes. Dans la constitution d'une communauté, Elsa Deck-Marceau analyse trois étapes. Donc là, j'entends communauté plutôt au sens de collectif, où il y a une lune de miel qui est nécessaire pour susciter de l'investissement et du désir, qui est l'étape de constitution du collectif. Ensuite, on note les premières étapes où on se confronte à la fois à l'adversité du monde extérieur et on prend conscience que le nous n'est pas si homogène et cohérent. C'est là que naissent les premières tensions et les dissensions. Le collectif peut adopter plusieurs mécanismes face à cette première phase de crise. Soit il choisit d'analyser réellement les dysfonctionnements et les normes collectives qui ont donné lieu à ces crises, voire à ces agressions. Donc prendre sa part en tant que collectif et réfléchir en profondeur, ce qui nécessite un travail de fond, mais dont la solution sera pérenne ensuite. Ou au contraire, le collectif peut passer par la polarisation des négativités et des difficultés sur une ou plusieurs personnes, c'est-à-dire que ces personnes sont constituées par le collectif comme étant le problème, et les tensions ne seront apaisées que sur le court terme. Une chose très importante que ce livre met en avant, c'est que travailler sur la gestion des conflits nécessite de travailler notre rapport aux émotions. Alors, pourquoi est-ce que nous nous retrouvons dans nos milieux à reproduire de la justice punitive? Tout d'abord parce que cela répond le plus souvent à des sentiments d'urgence. Ensuite, parce que nous sommes dans une incapacité générale face à la conflictualité, aux ruptures, aux nouveautés. On note une fragmentation et des oppositions de plus en plus clivantes et polarisées. John D'Emilio parle de basculement des mouvements trans et lesbiens post-68, qui s'opposaient alors à un système global, vers aujourd'hui des militantismes focalisés sur une seule question et une reconnaissance d'identité, qui demande la reconnaissance de la différence, mais qui nous fait basculer de plus en plus vers une politique de la demande, où on demande à être intégré à cette société, et également une épistémopolitique de la vulnérabilité. Alors ce sont des termes qui peuvent semblait un peu difficile à comprendre, mais en gros, cela veut dire que on se positionne avant tout comme personne vulnérable, victime du système, et que la seule réponse que l'on trouve à ça, plutôt que de combattre le système dans son intégralité et de réfléchir en profondeur à comment nous trouver notre forme de faire justice qui soit pérenne et qui tende réellement vers la justice sociale et l'égalité, eh bien, on va plutôt désigner des victimes, des coupables, et rester sur cette polarisation. Page 85, Elsa Deck Marceau dit « Le désir de liberté comme la conscience de sa propre puissance du collectif disparaît peu à peu derrière une aspiration politique limitée à l'émancipation individuelle, à la simple reconnaissance de nos identités et des oppressions subies. Ceci est accentué par l'écart entre les apparences de représentation, notamment liées au pinkwashing, où on a l'impression de vitrine, en tout cas les institutions, les entreprises, etc., nous visibilisent un peu plus, et la réalité, en fait, de notre sous-représentation dans les sphères politiques et économiques décisionnelles. Wendy Brown parle de ressentiment et de revanche moralisante qui cherche à voir la souffrance comme une vertu sociale et la force et le privilège comme immoraux. On en vient à une sorte de chasse aux sorcières, en gros, à l'intérieur de nos communautés pour responsabiliser les individus qu'on estime prendre le plus de place dans l'espace social, avoir le plus de privilèges, plutôt que de chercher à transformer le collectif, à rééquilibrer les pouvoirs pour en réalité combattre le système dans sa globalité, qui est un système de multiples oppressions. Or, ce ressentiment, face encore une fois à l'adversité du monde extérieur et face à la prise de conscience que cela a des impacts toujours dans nos milieux et qu'on ne pense pas tous pareil et qu'on n'a pas tous les mêmes rapports dans les espaces sociaux, cela produit un affect, de la rage et de plus en plus de droiture pour venir submerger la douleur. On cherche alors des responsables de cette douleur, et on produit des lieux de revanche pour déplacer la douleur, un endroit où l'infliger, qui serait égal à la souffrance de la personne qui a été blessée. Cela fait écho à la sociopsychologie et aux études de Sartre, des mouvements de 1789, qui décrivaient un changement dans nos modes de solidarité, qui était d'abord pensé comme une expérience vécue en 1789 et qui serait maintenant devenue imposée à chacun une dans la durée au sein de nos collectifs. Cette reproduction de la justice punitive, elle s'appuie aussi et donc sur l'impunité des groupes dominants qui fait s'élever le niveau de rigueur intra-groupe militant. Cela est renforcé par les réseaux sociaux et ce que Elsa Deck Marceau appelle la performance militante en ligne. Wendy Brown, elle, parle de moralisme progressiste qui tend à réduire le mal à des cas individuels, en cohérence avec un système néolibéral qui nie la réalité des groupes sociaux et des classes sociales pour tout ramener à des responsabilités individuelles. On attaque alors les effets des systèmes d'oppression plutôt que leurs causes, en surinvestissant la critique culturelle plutôt que la critique de l'économie politique. Ça, c'est Fraser qui le dit. On est donc passé depuis les années 70 en féminisme abolitionniste pénal de lutte pour des procès sans peine, qui du coup militait contre les peines pénales, même des agresseuses, violeureuses, etc., à aujourd'hui des peines sans procès, où direct on prend des sanctions sans même avoir de processus de justice à l'intérieur de nos collectifs. Donc c'est un véritable renversement du paradigme des années 70. On observe aussi que cela est lié à un militantisme qui quitte peu à peu la rue, les sphères décisionnelles, pour investir de plus en plus le domaine du langage et de la symbolique. On reprend ici l'exemple des trigger warnings que j'ai déjà évoqués dans des épisodes précédents, qui viennent reposer sur une individualisation des traumatismes et une lecture psychologisante au lieu, encore une fois, d'une lecture structurelle et politique. Un autre exemple, c'est la starification renforcée par les réseaux sociaux, qui, encore une fois, individualise nos personnes et rompt l'esprit du collectif, avec une politique qui tend de plus en plus vers le développement personnel. Donc, c'est-à-dire que les oppressions systémiques qu'on subit deviennent des traumas personnels, et on oublie l'oppression générale qui les a suscitées. Tout cela dans un climat d'épuisement général, où on en a marre de faire de la pédagogie, alors même que cela s'adresserait à des groupes concernés par nos luttes. Donc tout cela entraîne un binarisme et une essentialisation des rôles, victime vs agresseureuse, qui appauvrit la complexité des rapports sociaux et vient déshumaniser l'autre. Cela provoque aussi la prédomination des sentiments de colère, de peur et de tristesse, qui viennent dépasser, prendre le pas sur la volonté de désamorcer et désescalader les conflits. Didier Andieu, psychosociologue, parle de phénomène de réaction en chaîne entre la frustration des groupes et la violence mise en œuvre contre certains haines de leurs membres. Or, plus le nombre de personnes adhérant à une vision des choses est importante, plus celle-ci acquiert une dimension véridique et incontestable, avec des conflits de loyauté, on y reviendra. Or, il faut faire attention aux intérêts de chacun une à prendre part à cette gestion de conflits ou d'agressions. Tada Ozumi parle d'abus de responsabilisation, en désignant les tendances personnelles à vouloir contrôler et ou punir les autres, qui induisent une recherche de capital social et d'exorcisation des fantômes de son propre passé, sans que celle-ci soit clairement évaluée. C'est-à-dire qu'on a tous plus ou moins d'intérêt à s'investir dans une gestion de conflits ou d'agressions, ce qui permet un peu d'invisibiliser nos propres responsabilités et de nous mettre en avant aussi d'une certaine manière. Si la justice punitive est aussi forte dans nos milieux, c'est aussi parce qu'on manque de ressources pour comprendre les dynamiques de violence intra-groupe, et notamment intra-couple queer. Il y a très peu d'études là-dessus encore. Enfin, on peut noter une dépendance des individus au collectif, parce que ce sont nos familles choisies, qu'on y a des projections personnelles très fortes, des enjeux de reconnaissance sociale très importants, et qu'on y trouve des promesses militantes qui nous font sentir lors de la première phase de lune de miel vraiment à notre place et tournées vers des horizons politiques libérateurs. Du coup, en l'absence d'autres soutiens dans le monde extérieur, qui est violent pour nous, cela nous pousse à des phénomènes d'adaptation et de minimisation et à faire de plus en plus de concessions concernant nos droits individuels et ou notre confort personnel. Et cela facilite les phénomènes d'auto-incrimination, d'autant plus pour des personnes vulnérables et précaires qui tendent à accepter les jugements de dévalorisation en tant que tels. Là interviennent le manque de légitimité, le syndrome de l'imposterisme, la culpabilité et qui peuvent pousser des personnes à avouer des actes qu'elles n'ont même pas commis. Il peut y avoir un phénomène aussi parfois où ce sont les personnes les plus investies dans le militantisme qui peuvent être jugé le plus sévèrement du coup. On note deux grandes tendances opposées dans la gestion de conflits et d'agressions intracommunautaires, et qui sont toutes les deux bancales. Soit la personne victime est renvoyée à une position passive, et elle est très peu consultée, sous prétexte de la préserver d'une réactivation de son trauma. Soit au contraire, la personne victime est mise en position de surpuissance, et là je renvoie à Sarah Schulman, Le conflit n'est pas une agression, qui en parle très bien dans son livre, où on donne tout pouvoir à la ou aux personnes victimes, en les consultant pour le moindre détail et les mises en place de chacune de leurs demandes, aussi violentes ou absurdes puissent-elles être, sans discernement. Surtout, ce que l'on note dans cette justice punitive intracommunautaire, c'est l'absence de corrélation entre les revendications du groupe et la gravité des faits supposés. On perd toute notion de proportionnalité. Cela entraîne un durcissement des demandes au fur et à mesure de la reconnaissance souvent forcée des actes. Se pose la question de l'objectif visé. Est-ce que c'est réellement la prise de conscience et la transformation de la personne ? Ou bien l'assouvissement d'un besoin de vengeance. Je fais un petit aparté ici sur la différence entre vengeance et légitime défense. En droit pénal, la légitime défense est le fait de ne pas être pénalement responsable dès lors que les moyens employés sont proportionnels à la gravité de l'infraction. Deux aspects sont importants, ici, la question de la gravité et celle de la temporalité. Cette dernière notion étant contestée par le mouvement abolitionniste qui prône la légitime défense différée telle qu'elle est désormais applicable au Canada depuis 1990, et ça c'est vraiment important, puisque on sait que par les mécanismes de sidération, on peut avoir recours à la violence souvent a posteriori. C'était le cas de Jacqueline Sauvage en France. La proportionnalité a un aspect subjectif, d'autant plus que lorsque l'acte de réponse à la violence répond à un système d'oppression, dont les effets sur notre santé ne sont même pas mesurables, dit Elsa-Dec Marceau. Mais il reste une différence entre cibler une multinationale, par exemple, ou un parti politique, et infliger une humiliation à une personne agissant contre son nom. Pour distinguer vengeance et légitime défense, on peut se poser la question de l'objectif. Faire cesser une situation de violence et mettre en sécurité les protagonistes, cela est la légitime défense. Ou bien recourir à une forme de violence à titre préventif, vis-à-vis d'un récidiviste ou personne détenteuriste du pouvoir, et en un sens intouchable par la justice institutionnelle, cela aussi c'est de la légitime défense. L'autodéfense est importante. C'est un processus de réhumanisation pour les personnes victimes. L'autodéfense et les ripostes stratégiques ne sont pas la même chose que la planification d'un passage à tabac néanmoins. On en vient à la question du call-out, qui peut parfois être la seule solution pour atteindre une personne disposant d'importants pouvoirs, qu'ils soient financiers, sociaux, de soutien médiatique, ou face à une récidiviste, face à qui des mesures ont déjà été prises sans succès. Cela permet de récupérer une parole confisquée, et cela fait intervenir dans la confrontation, autorise victime, une instance tierce, venant représenter les intérêts de la personne victime. Mais il est important de toujours se demander la question des objectifs à court, moyen et long terme, ainsi que quelle prise en charge pour la personne à l'origine du call-out, et quel devenir pour la personne call-outée. Le problème actuel de cet outil, c'est qu'il est étendu à des actes aussi divers que des actes de violence sexiste et sexuelle, à des erreurs lexicales, ou des actes reprochés sur lesquels plane un certain flou. Et voici le revers de la médaille du call-out pour nos communautés. D'abord, c'est une perte d'énergie collective. Ensuite, c'est une mine d'informations pour les renseignements intérieurs et la police. En outre, cela a peu de résultats concrets en matière d'expiation, c'est-à-dire de reconnaissance des faits et de prévention, puisque le plus souvent, les personnes call-outées répondent surtout par la défense et essayent de répondre à la gestion des répercussions du call-out plutôt que de se remettre en question. Et très souvent, Cela se termine par un changement de cercle sans que la prévention ne réussisse. On note de manière générale un effet quasi nul sur les structures de domination et de pouvoir du call-out, puisqu'il vise une ou des personnes en particulier. Le call-out peut parfois surfer également sur les mécanismes de justice pénale en se focalisant sur la punition de la personne accusée plutôt que sur la sécurité et le bien-être de la personne victime. C'est aussi une manière de déposséder les personnes de leur histoire. Enfin, bien souvent, il prend une ampleur démesurée, surtout lorsqu'il se fait en ligne, avec des mécanismes de déshumanisation de plus en plus rapides. En psychosociologie, on parle d'effet de gel. L'acte même de s'engager motive l'individu à adopter un comportement et à rester sur cette décision. Et un principe de cohérence, c'est l'effort pour rendre cohérentes nos décisions entre elles, a posteriori, qui entraîne un effet de renchérissement. Or tout cela expose la personne à une retraumatisation lorsque celle-ci a déjà vécu du harcèlement. We're gonna fly to school each morning. We're gonna smile the entire time. We're gonna be more happy. We're gonna finally be fine. We're gonna get more calm and normal. We're gonna fix our state of mind. We're gonna be less crazy. We're gonna finally be fine. Il y a donc des limites aux outils d'exclusion. On perd déjà la prise sur ce que devient la personne autrice. On a du mal à conserver la mémoire des actes et à adopter l'accompagnement en fonction. Et cela prive d'une potentielle transformation collective, puisque la personne devient le symptôme. Mais on ne vient pas chercher ce qui, dans le cadre collectif, a permis l'agression. Il est quand même nécessaire de rappeler les répercussions sur les personnes ostracisées. Il est difficile de rendre compte de l'ampleur des répercussions lorsque le vécu est justement celui d'une absence d'action et d'interaction. Le call-out et toute autre mesure d'exclusion fonctionnent comme des virus qui se propagent à toutes les personnes qui souhaiteraient venir en aide à la personne ostracisée. Les communautés et familles minorisées qui se retrouvent en charge du care sont en position de personnes ressources, donc c'est toujours les mêmes, les plus vulnérabilisés et précarisés, qui se retrouvent à devoir faire ce taf d'accompagner la personne autrice de violence ou accusée de violence. L'isolement est d'autant plus violent pour les personnes de minorité qui ne disposent pas du même réseau de soutien et de sociabilité que le groupe dominant. Enfin, on note que ces mécanismes d'exclusion se poursuivent souvent dans un temps long et indéfini, comme une sorte de casier communautaire qui rappelle le casier judiciaire. Au contraire, donc, que serait une justice intracommunautaire abolitionniste et transformatrice ? Donc, transformatrice, ça veut dire qu'il inclurait un projet politique pour la société et ses membres, en s'appuyant sur le présupposé que le conflit ou fait de violence est l'opportunité pour les individus ou le groupe de se transformer. La justice transformatrice est un terme formé dans les années 90 par Russ Morris, et qui était pensé pour des cas extrêmes de violence, viol, meurtre, crimes contre l'humanité ou encore justice environnementale. Des organisations ont ensuite travaillé à la rendre opérante pour la gestion de conflits de la vie quotidienne. Selon Elsa Digmarceau du collectif RACA, du coup, cela, elle peut se définir comme toute initiative abolitionniste qui œuvre pour la justice sociale et lutte contre les discriminations en redonnant du pouvoir aux personnes directement touchées par ces violences. On a l'exemple du collectif Chrysalis Collective aux États-Unis. Ses objectifs, comme listés dans une des annexes du livre, seraient 1. Ne pas engendrer de malveillance ni perpétuer la violence systémique. 2. Travailler à répondre aux besoins immédiats de justice, sécurité, guérison, connexion, responsabilité. 3. Travailler à lutter contre les occurrences de la violence contemporaine de manière à modifier ses conditions initiales et prévenir d'autres préjudices. 4. Comprendre que les actes dommageables individuellement ont aussi un impact collectif et doivent donc être pris en charge collectivement. Pour cela, il faudrait former des instances de justice adaptées aux problématiques du groupe qui les a créées et qui les occupe. Il faudrait donc identifier les faits au rythme des personnes victimes. Cela nécessite un certain recul, que l'on prend au sérieux la situation, sans adhérer forcément à l'ensemble de la version de la personne, qu'elle soit victime ou autrice de violence, ce qui ne serait pas nécessairement lui rendre service, mais l'objectif reste le soutien individuel, matériel et concret aux personnes victimes. Donc la priorité est à la mise en sécurité des personnes, en premier lieu des personnes victimes, puis vient le travail de temporisation. Une justice transformatrice implique un accompagnement stable et suivi, tant à comprendre l'ensemble de la situation en détail et des dynamiques collectives sous-jacentes, pour ensuite bien cadrer les attentes dans l'espace, le temps, l'identification des personnes ressources. Kai Sheng Tom, militante transféministe sur les questions de gestion de conflits intracommunautaires, insiste sur la nécessité de clarté, d'intégrité et d'éthique. Cela implique des points réguliers entre les deux équipes, celle de soutien à la personne victime et celle de responsabilisation de la personne autrice de violence, ainsi que des réflexions sur les postures des personnes qui prennent part à ces processus et les répercussions psychologiques, voire physiques, de ces postures sur le long terme. Il faut interroger les limites propres et collectives et les intérêts à s'investir dans ces démarches. En plus de cela, démêler les conflits de loyauté et les sentiments de culpabilité qui peuvent y être liés. Il faut encourager à les verbaliser. Mais de manière générale, l'expérience transformatrice lie d'autant plus les protagonistes sur le long terme et permet de retrouver l'espoir en l'autre. Donc la justice transformatrice, elle a une focale particulière sur la personne victime et consiste à évaluer ses besoins. C'est ce que fait l'équipe de soutien, le plus clairement possible. Ensuite, il faut accompagner la personne autrice de violence. Ça, c'est le travail de l'équipe de responsabilisation. Encadrant rigoureusement ce qui est inacceptable ou acceptable, et en nommant des attentes claires en termes de prise de conscience et de réparation. Cela va impliquer un travail d'empathie, d'écoute et d'attention qui ne peut bien sûr pas être demandé à celles ayant vécu les violences et à leurs proches, d'où l'importance des personnes tierces. Mais c'est plus efficace pour réduire les risques de récidive. Il faut enfin penser la transformation du groupe. Cela passe par des conversations collectives qui viennent interroger les centres d'intérêt, les dynamiques collectives différentes et d'établir des automatismes sains, comme le passage de relais, le cadrage des limites et l'anticipation des réactions. Il y a une responsabilité de la communauté dans la protection de ses membres et la prévention des préjudices, et pour cela nécessite de développer une certaine connaissance des mécanismes à l'œuvre dans un conflit ou une agression. D'où l'intérêt, on le verra, de croiser avec de la socio-analyse et autres savoirs universitaires. La justice transformatrice implique une prise en compte des faits, des ressentis et des répercussions pour l'ensemble des protagonistes par des clés élémentaires d'analyse qui permettent de désescalader les conflits en cherchant directement des solutions concrètes aux besoins exprimés. Donc cela passe par une mise en commun d'outils, psychosociologie, etc., le renforcement des capacités de débattre et de communiquer pour aller vers une communauté garante de nos liens de solidarité et du respect de notre intégrité individuelle. Pouvoir poser des limites justiciables, évolutives et explicites sans que la communauté ne rebascule dans l'imaginaire de la contrainte. La justice transformatrice s'inspire beaucoup des dispositifs d'accompagnement dans le soin. De manière générale, revenir à un niveau local permet de retrouver le pouvoir sur nos existences propres. Mais pour une justice réelle de l'égalité et de l'équité, Elsa Deck-Marceau parle de la nécessité de se projeter à un niveau plus vaste et pour cela de prendre en compte, pour la personne qui commet un acte entre guillemets illégal, l'ensemble de la situation matérielle, physique et psychologique de la personne, tout comme son environnement socio-structurel. Par exemple, la reproduction des violences subies, etc. Le domaine de la justice ne peut pas être le seul à pouvoir se penser dans une logique transformatrice. Cela est valable pour l'ensemble des champs, notamment l'éducation, la santé mentale, etc. Il faut penser des structures et des centres d'aide où travailleraient ensemble plusieurs corps de métier pour accueillir les personnes ayant commis des actes graves et nécessitant une surveillance particulière sans passer par la sanction. Fin de citation. Il faut également créer plus de liens nationaux et transnationaux entre les différentes organisations, ainsi que des comptes rendus et des archives, et plus de liens entre les milieux militants et universitaires. Cela nécessite des alliances précises et encadrées, au-delà des désaccords politiques. Elsa Deck-Marceau donne plusieurs exemples de groupes ou collectifs qui travaillent dans le sens de la justice transformatrice, comme le groupe PsyPsy du plateau des Mille Vaches, le travail de l'Institut français de justice restaurative, qui propose d'ailleurs des formations gratuites, le travail du Centre de ressources pour les intervenantes auprès d'autorités de violences sexuelles, le CRIAVS, les associations d'aide aux victimes, les plannings familiaux, etc. Pour quelques exemples d'outils pour les conflits intra-individuels, lister les sujets abordés, les retombées escomptées et les actes et paroles non acceptables, pratiquer la médiation, ouvrir des groupes de soutien en listant les personnes ressources, accompagner dans des travaux d'écriture, recourir à des professionnels, recourir à l'entourage, cadrer un partage d'espace dans le temps et ou des zones spatiales avec des personnes tierces garantes de ce partage et qui mettent à jour régulièrement pour voir si le partage est toujours nécessaire. Ouvrir des espaces de parole encadrés. Pour les conflits au sein d'un groupe, lister les sujets à aborder, les retombées escomptées et les actes et paroles non acceptables. Faire des formations. Ouvrir des temps d'échange autour des tensions. Des temps d'analyse des dynamiques collectives. Là encore, recourir à des professionnels, recourir à l'entourage. Un partage de l'espace dans le temps et en parallèle faire des intervisions, supervisions et des post-évaluations pour les personnes qui s'engagent dans ces processus et dans les équipes de soutien et de responsabilisation. Échanger les savoirs et les expériences avec des personnes extérieures et faire des échanges en interne. Analyse de l'accompagnement avec des bilans de chaque suivi. Dans le cas d'une agression, il faut avant tout lister les besoins de la personne victime et les tâches devant être accomplies pour y répondre et que celles-ci soient cadrées dans le temps. Pour chacun des cas de conflit ou d'agression, toujours prévoir une porte de sortie pour les personnes tierces, avec une personne à contacter par exemple, lorsque l'on souhaite que quelqu'un une prenne notre place. D'autres outils peuvent être la rédaction de protocoles ou de chartes, une fois les dynamiques collectives analysées, voir ce qui a déclenché le conflit et comment il s'est déroulé. Cela peut passer aussi par la mise en place de binômes. D'autres exemples d'outils sont la socio-analyse, pour comprendre les dynamiques collectives et replacer les protagonistes en sujets, c'est-à-dire en expertes de la situation, et les professionnels en simples accompagnantes, expertes de la méthode. La socio-analyse est née de la rencontre entre les philosophes et sociologues français Georges Lapassade et René Laureau. De manière générale, il est utile de travailler à la redistribution de pouvoir, ce dont parle Christiane Gillon, et de penser le poids du collectif. D'autres outils peuvent être les constellations familiales, la méthode des 12 étapes des alcooliques anonymes, etc., etc. Quels sont les principaux obstacles à la mise en place de la justice transformatrice dans nos communautés? Tout d'abord, le manque de moyens de structure pour l'appliquer à grande échelle. Cela va de pair avec le fait de penser à un monde non capitaliste où chacun une aurait le temps et l'énergie à consacrer à son lieu de vie et sa communauté. Fin de citation. Il y a également un problème de rémunération des personnes ou de la communauté qui s'impliquent dans ces dispositifs. Enfin, bien entendu, le principal obstacle, c'est le maintien de la justice punitive dans notre contexte social qui est incompatible avec le développement d'une justice transformatrice. Il y a une nécessité de se réapproprier le conflit, de ne plus être pénalo-dépendante. Tout cela, c'est le fruit de la récupération étatique et institutionnelle, notamment avec le complexe industrialo-carcéral qui génère des milliards chaque année, de nos conflits civils, mais aussi de la déperdition de nos savoirs pour leur apporter des réponses. Cela s'est mis en place en parallèle de l'avènement du capitalisme actuel et de l'uniformisation des lois dès le XVIIIe siècle, qui se sont appliquées à décommunautariser et centraliser la prise en charge des conflits. Nils Christie parle de segmentation des espaces de vie, plus de celle des groupes humains en fonction de leurs attributs sociaux, qui sont rendus à des fonctions sociales. On parle du boulanger R, de la voisin-voisine, mais on ne les connaît pas vraiment. C'est une dépersonnalisation de la vie sociale, accentuée par les réseaux sociaux, qui réduit les individus à des profils. On perd du lien pour comprendre les comportements et les motivations des autres, alors que nous pratiquons en réalité le conflit au quotidien, en décidant par exemple d'établir une discussion dans un moment de tension. Voilà, c'est la fin de mes notes sur Faire Justice d'Elsa Deck-Marceau, qui, pour la resituer, a cofondé le collectif FRACA, un collectif queer et féministe d'entraide militante à la prise en charge des conflits et des violences en milieu intracommunautaire. Je vous conseille vivement la lecture de ce livre et de réfléchir de manière générale au sein de vos collectifs à comment aller vers davantage de justice transformatrice. Je voudrais quand même venir nuancer les propos d'Elsa Deck-Marceau, qui par ailleurs, je l'ai appris plus tard, a elle-même été autrice de violences sexistes et sexuelles. Et pour cela, je vais m'appuyer sur la brochure, l'excellente brochure « Ceci n'est pas un call-out », se positionner pour une vraie autodéfense féministe du collectif anarcho-féministe toulousain Bagarre, et qui remet au centre la nécessité du call-out dans certaines situations de violences sexistes et sexuelles. Donc je vais faire un récapitulé des différents points que j'ai notés à partir de cette brochure. La justice punitive dont j'ai parlé, est issu de la révolution bourgeoise de 1789, où le droit s'articule alors autour de la notion de propriété privée, et qui reprend à la monarchie de droit divin l'idée selon laquelle les personnes reconnues coupables doivent être punies par le châtiment et la violence sur leur corps. Le collectif Bagarre s'oppose à cette justice punitive, tout comme moi. La justice non punitive s'oppose à un féminisme réformiste, et selon Ruth Morris, que j'ai déjà cité, et que Elsa Deck-Marceau cite elle-même, cette justice non punitive doit être centrée sur les besoins de la personne victime, avant tout, en se donnant les objectifs suivants. 1. Obtenir des réponses à ses questions sur les faits. 2. Voir son préjudice reconnu. 3. Être en sécurité. 4. Obtenir réparation. Le collectif Bagarre met l'accent sur le fait que le call-out est un outil historique de défense féministe face à la silenciation imposée au sein même des milieux d'extrême gauche. Et ce n'est pas la même chose que l'enfermement. Les VSS ne sauraient être minimisés et considérés au prisme d'un conflit interpersonnel. Le call-out est un outil de protection des victimes, même si la plupart n'en sont pas pleinement satisfaites. Ce n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'autodéfense qui donne lieu à davantage d'espace à la reconstruction de la personne victime. Le collectif se positionne pour un call-out qui permette de faire circuler l'information tout en responsabilisant la communauté. Le call-out permet à d'autres victimes de parler. On observe qu'il est particulièrement remis en question pour les questions de VSS, alors qu'il ne l'est pas pour d'autres motifs d'exclusion. Et cela est attribué par le collectif Bagarre à l'infusion des discours masculinistes dans nos milieux. Le collectif insiste sur le fait qu'il n'y a pas de médiation possible avec tout le monde, notamment avec les franges les plus fachos. On ne, je cite, « répare pas avec ses ennemis, mais bel et bien contre ». Et autre citation, « Celles qui prétendent le contraire sont peut-être celles qui ont le plus à perdre, ou trop privilégiées et ou trop éloignées des réalités sociales et militantes du terrain pour en ressentir la nécessité ». Le call-out est un outil pour protéger nos milieux déjà très vulnérabilisés. Les dérives de cet outil, comme toute dérive, ne doivent pas remettre en question sa pertinence dans une majorité des cas. La brochure vient aussi se mettre à l'encontre du discours du « ça peut arriver à tout le monde ». Non, tout le monde ne commet pas de viol ou autre agression, et partir de ce postulat renforce un cadre permissif favorable à la pérennisation de la culture du viol. Il y a certes, a priori, une proportion plus faible de femmes ou de personnes LGBTQIA+, auteuristes de violences, mais ces situations sont en réalité peu documentées, comme je l'ai également dit précédemment. Il est important d'insister sur le fait que toutes les violences ne se valent pas, et l'autodéfense est une violence légitime, car elle vient renverser un rapport de pouvoir et de domination. Le rapport de force est nécessaire. Il relève de la survie. L'anticarcéralisme ne doit pas se confondre avec la condamnation de celles qui, n'ayant pas les mêmes ressources et réseaux de soutien que d'autres, se retournent vers les institutions policières, judiciaires. Alors, par ailleurs, le collectif se positionne donc sur un anticarcéralisme certain, mais selon LE, qui ne doit pas se confondre avec la condamnation de celles qui, n'ayant pas les mêmes ressources et réseaux de soutien que d'autres personnes, donc des personnes particulièrement minorisées sur le plan racial, de classe, etc., se retournent vers les institutions policières, judiciaires, etc. Cette condamnation de se tourner vers les institutions, c'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment dans nos milieux, il est vrai. Le collectif souligne qu'il y a une grosse vague de critiques du call-out et des autres outils d'autodéfense féministe en cours, et que cela donne lieu à un véritable backlash féministe, là où ces mêmes personnes ne se remobilisent pas en soutien des personnes minorisées et des personnes enfermées en général, donc elles dénoncent l'hypocrisie de certaines personnes qui se disent anticarcérales, mais sans véritable action concrète derrière. Et elles mettent en garde contre le fait de renverser la focale de compassion de la victime vers l'agresseuse. Et c'est vrai que dans les équipes de responsabilisation dont je parlais, ça pourrait être le cas et il faut y faire très attention. Et elles mettent enfin des limites à la justice restaurative. Attention, la justice restaurative, ce n'est pas la justice transformatrice dont je parlais. La justice restaurative, c'est une justice qui a été mise en place par l'État et qui entend restaurer le dialogue, en tout cas les relations, entre des victimes et des agresseuses. Cette justice restaurative est de plus en plus brandie comme un saint Graal qui donne lieu à une injonction de restauration de dialogue entre victimes et agresseuses. C'est l'infusion d'une rhétorique très chrétienne de compassion, de charité, de pardon, teintée d'un humanisme libéral qui se voudrait non-violent. C'est une justice qui reste corrélée aux institutions étatiques, en venant compléter le système de justice pénale tel qu'il est, qui ne s'inscrit pas dans l'anticarcéralisme. Ça peut être un processus valable au sein de nos communautés, mais selon un certain nombre de prérequis, c'est-à-dire que la justice restaurative doit se faire uniquement à la demande des personnes victimes, et non pas par des personnes tierces, ou encore moins d'agresseuses. Ensuite, la personne autrice de violence doit reconnaître les faits, et accepter le cercle restaurateur. De même, des personnes extérieures doivent assister aux échanges, absolument. Et enfin, il ne doit pas y avoir d'obligation de résultat. Accepter d'emprunter cette voie ne doit pas donner lieu à une injonction au pardon. Le collectif dénonce une dérive de whitewashing, à brandir le prétexte de l'origine de cette forme de justice comme venant de peuples colonisés. Parce que tous les peuples colonisés n'ont pas recours à ces dispositifs loin de là, et pour beaucoup, les outils d'exclusion restent primordiaux. De même, et elles ont raison d'insister sur le peu de résultats probants des cercles restaurateurs, et donc d'inviter à la méfiance à cet égard. De plus, la justice restaurative demande beaucoup d'énergie, de temps et d'outils, ce dont on peut manquer dans nos milieux. Il faut enfin prendre en compte les mécanismes d'emprise et autres profils qui ne peuvent pas être compatibles avec des cercles restaurateurs. Appelle-moi Youse, on se connaît. Prims, on se connaît. Lyriciste band, tous mes enfants, tout on se connaît. Black Bear, Pap, tout de partout, on se connaît. Parle-nous d'amour avant de nous parler de money use. C'est ce que me disent les anciens, les darons. Loin des pinces et des charognes. Et même en yin, je n'ai qu'une seule parole. Quand vient la mort, on t'enterre sans tes milliards. Est-ce que t'as déjà vu un coffre-fort à l'arrière d'un corbillard? Encore ignare, on m'a dit que le savoir est une arme. Mon frère en prison, on m'a dit que le parloir est une larme. Aux hommes, aux femmes, enfermés loin des palais. Et qui m'ont apporté leur flamme lors de mes concerts en maison d'arrêt.
Je suis dans l'arène, on me parraine, mais j'ai le trac. Et à ce qui paraît, on nous traque. Je disparais après ce trac, putain. Après la trêve, je ne sors plus. Comment veux-tu que je mène une vie de rêve alors que je ne dors plus ?
Yelz adresse ensuite la question du call-out dans les milieux queer, comme étant à prendre avec peut-être davantage de précautions, car souvent les personnes sont surmarginalisées. Mais néanmoins, cela n'est pas toujours le cas. Et tout comme à l'extérieur de ce milieu, il reste important de ne pas banaliser et silencier la parole des victimes. Parce que ce milieu est bien marginalisé, nous avons d'autant plus besoin de sécurité pour les personnes victimes. Et il y a un enjeu de refuser une approche individualisante et libérale qui se dit pourtant radicale de la lutte contre l'hétéropatriarcat et qui est du pinkwashing. Enfin, Yael dénonce le fait de brandir que toute démarche de call-out serait nécessairement raciste et transmisogyne. Il faut être vigilante sur la transmisogynie, largement répandue dans nos milieux. Et cela ne saurait être un laissez-passer au VSS commis par des personnes transfemmes. Brandir l'argument de la transmisogynie comme du racisme contre le call-out est malhonnête et instrumentalise les vécus des personnes transféminines et racialisées. Le collectif insiste sur le fait que tous les conflits ne sont pas pacifiables et les VSS ne sont pas des conflits. Le conflit a toute sa place dans nos luttes pour entraîner des moments de rupture avec un système inégalitaire et injuste. Tout ramener à des conflits qui doivent être pacifiés est une approche individualiste et libérale. On trouve de plus en plus de sophrologues, etc. qui animent des ateliers de pacification des conflits sans aucune personne compétente formée aux questions de VSS. Cela révèle une adaptation et une mutation sournoise du patriarcat qui n'est pas révolutionnaire mais qui entend réhabiliter, restaurer, transformer. Et elles dénoncent cela comme du masculinisme déguisé de bons sentiments et de morale. Et elles avertissent sur le positionnement en experte du conflit de certaines personnes qui donnent lieu à des rapports de pouvoir. Et encore une fois, elles réinsistent sur le fait que les victimes doivent être des décideuses de qui prend part au processus qui découle de leur prise de parole. Il ne faut pas confondre la responsabilisation des individus autoristes de VSS avec un accompagnement individuel teinté de développement personnel et qui s'inscrit dans une logique capitaliste. Il y a une nécessité d'une prise en charge et de transformation collective au-delà des postures performatives et de jugement moral. Et le milieu militant n'est pas là pour qu'on se réalise en tant qu'individu. C'est parce que les infos entre nous circulent mal et que l'on peine à se saisir collectivement des espaces de lutte que les call-outs et call-in deviennent les derniers outils à notre portée. Cela révèle et relève d'un problème d'organisation collective. Le collectif se positionne contre les injonctions au recul et à l'objectivité en matière de VSS. Yael cite enfin plusieurs pistes d'autodéfense féministe, parmi lesquelles ne plus considérer que c'est aux personnes oppressées d'éduquer leurs oppresseuses avec néanmoins la nécessité d'une transmission d'informations autour de la question des VSS. Également, l'importance de développer et d'utiliser des outils statistiques. Il y aura toujours des victimes invisibilisées, mais cela permettra de lever des tabous et d'appuyer la prise de conscience collective. En outre, visibiliser les schémas qui sortent de la cis-hétéronorme afin de créer des espaces de sexualité et de sociabilité moins toxiques. La réduction des risques collectifs pour une sexualité plus libre, consciente et consentie par exemple. Bagarre insiste sur l'importance de changer le rapport de force et également de ne pas laisser se banaliser les comportements cis-sexistes et que la lutte antipatriarcale ne devienne pas une lutte de seconde zone comme c'est le cas de plus en plus dans nos milieux. Et elle souligne la nécessité de questionner la violence et sa monopolisation au sein des milieux militants. Et enfin, de déconstruire les mécanismes de solidarité entre les personnes de pouvoir. Pour terminer, sont à rejeter pour bagarre les cercles de parole en non-mixité maxi 7 euros qui se transforment en bureau des pleurs sur la misère sexuelle et qui se révèlent de véritables incubateurs à incels. Voilà. J'ai essayé de faire avec ça un panorama de l'ensemble des positions qu'on peut avoir en termes d'autodéfense féministe et de justice transformatrice. J'espère que cela éclairera certains haines dans leur prise de position individuelle et collective. Merci de votre écoute et à bientôt sur Au bord des corps.
De votre corps, c'est le seul endroit
où vous êtes forcé de vivre.
Qu'est l'identité de genre d'une personne? Exactement. Comment se sent? ¿Y qué? ¿Por quién sentís atracción sexual afectiva? Oh, por otras mujeres. ¿Ella deja de ser mujer? ¿Por eso?
¿No sentís?
es imposible dissociar nuestra identidad y nuestro cuerpo. Para nosotras es una herramienta de lucha.
Dans un corps sain.
Au bord des corps.